Bonjour à toutes et à tous, deuxième numéro de l'ABC de la médiation familiale, une émission tous les 15 jours sur CFM Rodez en partenariat avec la DAVEM de l'Aveyron et à l'initiative et à la présentation de cette émission, deux médiatrices familiales diplômées d'État de la DAVEM 12. Bonjour Justine Lacambe.
Bonjour David.
Tout va bien ?
Tout à fait, très bien.
Très impeccable. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission avec la DAVEM. Bonjour Lucia.
Bonjour David.
Lucia Vintila. Donc vous êtes toutes les deux collègues et votre sujet c'est la médiation familiale, en particulier le thème de cette deuxième émission. Comme annoncé il y a 15 jours, c'est les principes déontologiques de la médiation familiale qu'on va voir ensemble. Mais avant ça, Justine, je vais vous demander de nous rappeler la DAVEM, de quoi il s'agit et la médiation familiale, rapidement, qu'est-ce que c'est ? S'il vous plaît.
Oui, tout à fait, ça peut être en effet nécessaire. Donc du coup, la DAVEM, je vais quand même développer le sigle, donc c'est l'Association d'aide aux victimes de violences et médiation. Voilà, donc il y a plusieurs pôles, dont le pôle des affaires familiales avec le service de médiation familiale. C'est pour ça que du coup, nous on intervient aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu plus la médiation familiale, en quoi ça consiste. La dernière fois, on avait évoqué donc un peu l'historique et la définition. Je vais reprendre peut-être avec vous la définition.
Oui.
Voilà, pour du coup commencer l'émission avec cette base, surtout que les principes déontologiques qu'on va évoquer aujourd'hui font partie de cette définition. Donc c'est une définition qui a été mise en place par une association du coup de la médiation familiale. Donc c'est national et tous les médiateurs du coup utilisent cette définition de la médiation familiale pour présenter du coup la médiation familiale dans les entretiens. Donc la médiation familiale, c'est un processus donc de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, donc le médiateur familial, favorise à travers l'organisation d'entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leurs conflits dans le domaine familial, entendu dans sa diversité et dans son évolution. C'est une définition un peu longue, mais qui résume la totalité de ce qu'est la médiation familiale et de la posture de médiateur familial qu'on va évoquer un peu plus du coup aujourd'hui. Et je vais du coup commencer, laisser ma collègue parler du coup du premier principe
déontologique. Lucia.
Oui, donc le premier, si vous voulez, c'est l'indépendance de médiateur.
Ah bah oui, j'imagine, oui, bien sûr.
Il ne rend pas compte à personne sur sa pratique. Et quand je dis à personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas justifier comment on pratique cette métier, ni à notre collègue, ni à notre chef, si vous voulez.
D'accord.
Même pas au juge, malgré que...
Ah d'accord, vous êtes indépendant, chacune, au sein de la structure. Vous n'avez pas à vous justifier et à raconter tout ce qui se passe dans vos bureaux à l'occasion de vos entretiens, d'une part, ça c'est important, et d'autre part, pareil, les liens avec la justice, il y en a, mais ils n'ont rien à vous influencer, quel que soit, enfin vous n'êtes pas sous leur coupe, on va dire.
Non, on peut faire des attestations à la fin de médiation,
oui.
Si c'était une médiation ordonnée par exemple, on donne cette attestation au juge ou à personne pour les présenter au juge.
D'accord.
Mais on est très 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 succincte quand on écrit et on reste neutre, et de la neutralité, c'est ma collègue qui vous parlera plus détaillé. Donc, on est indépendant dans notre pratique, mais on a quand même une obligation, si vous voulez, d'orienter les personnes vers des professionnels. Parce qu'on doit savoir que nous, on n'est pas juriste, on n'est pas psychologue. Et si les personnes, ils ont des questions d'ordre juridique ou d'ordre psychologique ou des questions liées au budget, on les oriente vers tous nos partenaires, avocats, juristes, la CAF, assistante sociale et tout qu'ils peuvent trouver pour avoir plus de détails.
Deuxième principe déontologique après l'indépendance des médiatrices ou médiateurs familiaux à la DAVEM. Le deuxième principe déontologique, c'est quoi, Justine ?
Alors, c'est la compétence. Donc, ça
j'espère, ouais, quand même.
Voilà, ça fait un peu lien avec l'émission qu'on a fait du coup il y a 15 jours, puisque donc il y a un diplôme d'État. Donc, c'est reconnu du coup au niveau de l'État. Et c'est vraiment important cette qualification et on se bat un petit peu avec ça et pour le faire reconnaître. Donc, nous, au niveau du service donc, de médiation familiale à l'association, comme on est subventionné, conventionné par la CAF, Oui. On est obligé d'avoir ce diplôme d'État. On ne peut pas exercer sans ce diplôme d'État. Donc, c'est vraiment important de mettre en avant cette compétence. Du coup, c'est une formation, donc comme ma collègue avait pu l'évoquer, avec à peu près 500 heures théoriques et 100 heures à peu près de stage.
D'accord. Alors, en heure comme ça, 500 heures, je ne me rends pas compte. Ça fait combien de mois ? C'est sur combien de mois ?
Alors, après, nous, c'est souvent sur 2 ans, 2 ans et demi, puisque d'accord. Du coup, c'est une formation qui se fait tout en travaillant, puisque c'est généralement une reconversion professionnelle. Mm-hmm. Ce n'est pas un métier qu'on fait en sortant, en fait, de... Mm-hmm. Des études.
D'accord. Cette formation, excuse-moi, la question de curiosité, Justine et Lucia, cette formation, elle vous a été rendue ici en Aveyron ou faut aller dans des endroits spéciaux à Paris, à Montpellier, à Lyon, j'en sais rien.
Cette formation, elle existe un petit peu partout en France. Ouais. Après, il n'y a pas beaucoup de centres de formation. Moi, j'ai fait mes études à Paris.
Ouais.
Et ils ont duré 2 ans et demi, comme elle a dit ma collègue, parce que la théorie, c'est sur une année et demie. Ouais. Et après, les 5 heures de stage en 10 continue, oui. C'est-à-dire que oui. On doit faire 105 heures de médiation pure.
D'accord, réel.
Réel, okay. Exactement. Okay. Donc, entretien d'information plus le processus, les séances. Mm-hmm. Tout ce que c'est administratif et qu'on fait en plus, ça compte pas dans les heures de stage.
Toi, Justine, toi, ta formation, c'était où ?
Moi, j'ai fait la formation sur Toulouse.
Ok.
À l'époque, il y avait deux écoles. Pour l'instant, il n'y en a plus qu'une.
Ah bah, voilà. Merde. Pardon.
Après, il y a très peu, en effet, d'écoles. Hein. Mm-hmm. On est très peu de médiateurs aussi en France. On est à peu près, avec un diplôme d'État, on est à peu près 1700, je crois, sur la France. Mm-hmm. Donc voilà, c'est quand même pas encore un métier très développé, voilà, qui est nouveau. Et pas très développé. Après, il y a des personnes qui passent aussi par la validation des acquis, des expériences. C'est aussi possible,
oui, c'est une autre possibilité.
De passer par cette voie-là. Il y en a encore très peu, mais c'est une possibilité. Il y a un mémoire, du coup, aussi à la fin hein, du diplôme d'État à soutenir. Voilà, et beaucoup de travail personnel avec beaucoup de dossiers à faire tout au long de la formation.
Ouais. 1700 médiateurs, médiatrices.
À peu près,
voilà. J'irai pas les compter à part.
On n'est pas allé compter non plus, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles déjà et qu'il n'y a pas non plus des sessions chaque année d'ouverture de promos. Mm-hmm. Et les promos sont en général très petites, entre 10 et 15 personnes.
Okay.
Et le taux de réussite est aussi très faible.
Ah bon ? Ah bah d'accord.
Ouais, nous, on a commencé 15 dans la promotion et on a obtenu le diplôme 8.
Ah ouais, à peine plus de la moitié.
Exactement.
Ouais. On disait, environ 1700 médiateurs, médiatrices familiaux en France. En Aveyron, combien ?
Alors, en Aveyron, du coup, il n'y a qu'une association subventionnée par la CAF. Ouais. Et du coup, nous sommes 3 médiateurs, mais avec juste 2 temps pleins. Après, il peut y avoir des médiateurs en libéral et il peut aussi y avoir des médiateurs qui créent une association entre eux, mais qui du coup n'ont pas de lien avec la CAF et donc n'ont pas cette obligation du diplôme d'État non plus.
Oui,
donc juste pour continuer sur la compétence, donc il y a ce diplôme à la base et après il y a l'obligation d'avoir la formation continue, hein, qui continue de développer cette compétence. Et surtout, ce qui est vraiment important pour nous, c'est les analyses de la pratique. On a une obligation du coup de 20 heures sur une année d'analyse de la pratique. Et notamment quand on est en association subventionnée par la CAF, cette obligation est vérifiée auprès de la CAF pour être sûr que du coup les médiateurs ont participé à ces analyses de la pratique ou supervision. Mais dans tous les cas, c'est obligatoire d'aller continuer à aller se former et surtout à pouvoir échanger et... se questionner sur sa pratique. En fait.
L'analyse de la pratique, c'est comme, alors je pense à un truc comme ça qui me vient là, c'est comme à l'école, les instituteurs, ils ont un inspecteur qui passe de temps en temps pour voir comment...
Non, pas du tout. En fait, on se retrouve à plusieurs médiateurs, donc nous, on y va sur Toulouse toutes les deux ensemble. On a 6 journées dans l'année, à peu près du coup tous les 2 mois, et on est 8 médiateurs, médiatrices, un peu partout en fait, hein, au niveau de l'Occitanie. Et on se retrouve, en fait, on amène des situations, on va dire, qu'on a besoin d'évoquer tout en restant dans l'anonymat. Et on va vraiment aller étayer, échanger pour comprendre au niveau de la pratique si, d'après nous, on a eu la bonne posture, pas la bonne posture, quelle posture on aurait pu adopter, quel outil on aurait pu utiliser. C'est vraiment du cas pratique, en fait, où on va l'analyser. Et aussi tout ce qui va être veille juridique. Voilà, veille juridique ou du moins information générale qu'on a besoin de connaître pour pouvoir vraiment être à jour, j'ai envie de dire, dans ce qui se passe.
Les principes déontologiques de la médiation familiale, c'est le thème de ce deuxième numéro de l'ABC de la médiation familiale avec l'ADAVEM de l'Aveyron. Les principes déontologiques, on en a vu 2 dans cette première partie. Il y a l'indépendance et la compétence. On va poursuivre avec au moins deux autres dans un instant, après une petite pause musicale. Vous avez choisi la musique, hein, que l'on allait partager et découvrir ensemble sur CFM Rodez. Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu de problème de médiation familiale ou autre entre les deux artistes qu'on va écouter maintenant. Lucia, c'est vous qui avez eu envie?
Oui, c'est moi.
Lady Gaga featuring Bradley Cooper. Je ne sais pas ce qu'il y a entre eux, mais en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Hein. On se retrouve juste après sur CFM Rodez. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the CFM Rodez, l'ABC de la médiation familiale, c'est tous les 15 jours sur CFM Rodez, deuxième partie. Pour ce deuxième numéro et la thématique, je vous la rappelle, ce sont les principes déontologiques de la médiation familiale. On a vu les deux premiers avec Justine Lacombe et Lucia Vintila, qui sont toutes les deux médiatrices familiales diplômées d'État à la DAVEM de l'Aveyron. Les deux premiers, c'était l'indépendance et la compétence. J'ai bien suivi jusqu'ici, tout va bien.
T'étais présente avec nous.
Tout va bien. On va enchaîner avec au moins deux autres, je crois. Le troisième principe déontologique...
C'est la confidentialité.
Ah oui, j'imagine, d'accord.
Oui, parce que c'est très 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 important.
Bien
que
sûr.
Rien ne sort pas de la médiation. Donc le cadre de la médiation apporte la confidentialité orale et écrite. Nous, comme professionnels, on est tenus par cette confidentialité, c'est-à-dire on ne peut pas divulguer à l'extérieur le contenu de l'entretien d'information ou de la médiation.
D'accord. Même par écrit?
Même par écrit. On est très, très, très vague, très neutre quand on fait des attestations aux personnes. Okay. Donc, on va écrire seulement que la médiation s'est mise en place ou que la médiation s'est arrêtée. Donc, sans donner le pourquoi.
On ne rentre pas dans les détails de la situation familiale qui peut être super compliquée.
Parce qu'on va perdre, notre neutralité.
Et bien sûr.
Le cadre, ça ne sera pas respecté. Donc, cette confidentialité, elle est importante aussi pour les personnes parce que sécurise et eux aussi elles sont tenues par la confidentialité. Elles ne peuvent pas divulguer à l'extérieur le contenu de la médiation seulement si tous les deux se mettent d'accord après sur quelques détails.
Okay. Et donc les gens dans la médiation, vous leur faites signer un papier comme quoi ils doivent ne pas parler ou ça se fait, ça se dit comme ça?
Non, on ne signe pas la médiation, c'est pas un métier qui ça se fait beaucoup par écrit. Ouais. C'est une médiation de métier de communication,
oui, contact,
on fait beaucoup à l'oral,
oui.
Et c'est une confiance qui se établit entre nous et les personnes. Mm-hmm. On l'explique bien au niveau au premier entretien d'information, qui peut être individuel ou en commun, ça dépend de leur volonté. Donc on l'explique bien qu'est-ce que c'est la confidentialité, quelles sont nos attentes, et on va voir comment elle peut être respectée et qu'est-ce que ça peut se passer si la confidentialité n'est pas respectée.
Ah oui.
Et qu'est-ce que ça peut se passer? C'est que la médiation, le médiateur, il peut arrêter la médiation.
Ah, d'accord.
Donc, la confidentialité, c'est une condition impérative à l'espace de médiation afin de garantir à chacun sa liberté de parole. Parce que chaque personne est libre de s'exprimer dans le respect de l'autre, dans un procédé de construction de la personne. Et nous, on doit respecter et préserver cette confidentialité des entretiens et des échanges qui ont lieu dans cet espace de médiation. Après, le médiateur, c'est une personne qui n'a pas de pouvoir de décision.
Oui.
Donc, c'est les parties qui vont discuter en médiation les sujets qu'ils souhaitent. On n'a pas de projet pour les personnes, donc on n'a pas
d'idées préconçues. Ouais.
Exactement, on le laisse libre à discuter. Après, on accueille leur demande et on essaye de sécuriser cet espace. Le cadre est défini par le médiateur, qui est le garant et qui peut évoluer en fonction de problématiques, en fonction de qu'est-ce qu'on discute en cet espace de médiation.
Très bien, voilà pour la confidentialité, le troisième principe déontologique de la médiation familiale. Quatrième et peut-être dernier principe déontologique, Justine.
Oui, alors on peut en grouper deux plus ou moins simples parce qu'il y a l'impartialité et la neutralité.
Ah oui, c'est lié, c'est associé.
Ça peut être associé, mais c'est aussi quand même deux choses un petit peu différentes. Donc, un des premiers principes qui concerne vraiment l'impartialité, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des médiations avec des personnes qu'on connaît, avec qui on est en lien.
Ah voilà, oui, d'accord.
Ça, c'est
okay.
Vraiment quelque chose qui est important pour nous, justement, pour pouvoir garder cette place de tiers dans la relation. Puisque la médiation familiale, comme on l'a vu dans la définition, c'est vraiment ce rôle de tiers entre les personnes. Donc, il peut y avoir que deux personnes, mais il peut y avoir aussi plus que deux personnes en fonction des situations du coup qu'on accueille en médiation familiale. Mais voilà, c'est vraiment important, on n'a pas le droit et on le précise bien et on vérifie bien avec les personnes. Voilà, si jamais à un moment donné ça venait arriver parce que voilà, le nom ne nous parlait pas, on n'a pas fait forcément le lien avec
la
personne quand elle est arrivée. Ouais. Voilà, c'est important à un moment donné de le clarifier et de éventuellement arrêter la médiation familiale ou du moins passer le relais à un autre collègue. Voilà, c'est vraiment important de le poser et de le définir.
De pas du tout être partie prenante du truc, quoi.
Non, tout à fait. Même s'il y a des personnes qui peuvent se dire, bon, voilà, je la connais ou on va essayer. Voilà, on n'a vraiment pas du tout le droit de prendre cette posture-là. Après, du coup, le principe de l'impartialité, c'est en effet d'appréhender du coup plusieurs points de vue de l'ensemble des personnes sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre.
Mais on peut même pas dire dans une médiation, par exemple, je connais rien moi, mais quelqu'un qui a vraiment pas un comportement, vraiment ça va pas du tout. Vous pouvez pas lui dire, bon, ça serait peut-être bien un peu de corriger un petit peu votre attitude, votre comportement, vos paroles. Non, même pas ça.
Alors, pas comme ça en tout cas.
Ah ouais, bon, d'accord.
C'est des choses qui peuvent être possibles. Ça, c'est vraiment du cas par cas, j'ai envie de dire, en fonction aussi du médiateur, de comment il se sent dans sa pratique, en fonction de la situation, en fonction des propos. Voilà. Après, nous, c'est vraiment des techniques, et c'est justement ce qu'on apprend en formation, c'est des techniques de reformulation ou techniques de communication qui vont nous permettre peut-être de faire glisser un message ou de transmettre une information ou de transmettre quelque chose qui va être important sans mettre à mal notre posture de tiers, impartial et neutre. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc c'est difficile de réagir à la question en tout cas. Certains médiateurs parlent de multi-partialité. J'en parle aussi dans le sens que ça peut nous arriver de prendre entre guillemets parti pour l'un, parce qu'on peut être en accord avec ce qu'il peut vivre, on peut être dans la compréhension de ce que la personne vit, mais il faut toujours, par équité, puisque c'est vraiment le principe aussi de la médiation familiale, cet équilibre recherché, cette équité, le faire avec l'autre personne à un moment donné. Voilà, il faut vraiment avoir conscience de cette posture-là, et c'est ça toute la difficulté de la posture aussi, c'est vraiment de pouvoir ou choisir le fait d'être qu'on est totalement impartial et qu'on n'intervient pas du tout et qu'on ne puisse pas à un moment donné aller vers l'un ou aller vers l'autre, on va dire, comme un soutien à un moment donné pour les personnes. Mais que par contre, si on le fait, il faut vraiment le faire de manière très équitable et vraiment vérifier cette équité.
Ouais, et puis j'imagine que chaque situation, ça peut évoluer en fonction des situations, justement.
Voilà,
chaque cas est particulier. Dans certains cas, on peut plus ou moins le faire, y aller. D'autres, on s'abstient.
Voilà. En tout cas, ça, c'est un principe que moi, je formule vraiment au premier entretien avec les personnes. Et je leur renvoie vraiment le fait que si jamais ils ont l'impression à un moment donné que je n'ai pas eu ma place de tiers vraiment impartial dans la situation, ou que j'ai pu faire une alliance, ou qu'ils aient eu la sensation que j'ai fait une alliance du coup avec une des personnes, je leur envoie le fait que c'est important justement qu'ils viennent m'interpeller sur ça, pour que moi je puisse ou me repositionner si en effet ils ont peut-être raison, hein, peut-être que je ne l'ai pas vu, ça peut être aussi inconscient dans la manière d'agir en tant que professionnel. Donc moi voilà, j'insiste vraiment sur le fait que c'est important qu'ils le renvoient, pour justement qu'ils n'aient pas la sensation, eux, qu'il y ait cette alliance, cette prise à partie,
bien sûr.
Qui met à mal du coup la posture du médiateur et qui met à mal toute la démarche
la médiation,
de médiation
tout simplement,
familiale.
Ouais,
voilà,
parce que limite le médiateur, bon, mais enfin toute la médiation familiale, bien sûr.
Voilà,
bien
c'est
compris.
Ça. Donc c'est vraiment un principe déontologique qui est assez, assez important, nous, dans la posture, et qui n'est pas forcément le plus évident.
J'imagine.
Voilà, du coup, pour la neutralité, qui peut être un petit peu du coup en lien avec l'impartialité, c'est le fait, à un moment donné, d'avoir conscience que les situations qui sont accueillies peuvent avoir un impact aussi sur nos propres vies, nos propres situations.
Oui.
Et donc, c'est important de pouvoir avoir un regard sur soi-même et ne pas être trop impliqué
non plus
dans la situation. Ne pas avoir de projet, ce que disait ma collègue hein, aussi, par rapport aux personnes, et ne pas voilà, faire des projections sur ce que l'on vit soi-même dans la situation en fait, qu'on accueille avec la personne.
Oui, pour vous préserver.
D'où l'importance, ce que je disais tout à l'heure, des analyses de pratique ou de la supervision, pour pouvoir aller éventuellement déposer ces situations-là et aller vérifier si la posture est toujours maintenue ou s'il faut à un moment donné passer le relais ou arrêter la médiation.
Indépendance, compétence, confidentialité, impartialité et neutralité, voilà les quatre principes déontologiques de la médiation familiale présentés aujourd'hui dans cette émission l'ABC de la médiation familiale avec la DAVEM de l'Aveyron, Lucia Vintila et Justine Lacombe, toutes deux médiatrices familiales diplômées d'État à la DAVEM 12. Merci beaucoup pour cette émission. La DAVEM 12, là vous êtes dans mes studios, mais enfin c'est pas votre lieu de travail le plus courant. Hein. On va donner le moyen de vous contacter, de vous retrouver pour ces sujets de médiation. Hein. De l'information ou carrément des cas pratiques, des cas concrets pour vous contacter. Il y a notamment un numéro de téléphone, Justine, Lucia, si je dis une bêtise, vous me corrigez. La DAVEM de l'Aveyron, on peut l'appeler au 05 65 73 56 00. C'est le meilleur moyen de le joindre. Je lui donne aussi le contact mail, qui est aussi un très bon moyen. C'est contact@adavem.fr. Un dernier mot, si vous avez des questions à Lucia ou à Justine autour de la médiation familiale, faut pas hésiter à nous les poser. Envoyez-nous un petit mail à redaction.rodes@cfmradio.fr Lucia et Justine, vous étudierez la question et vous tenterez de répondre aux questions qu'on vous posera à travers ces messages. Merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve dans 15 jours, même heure, pour un troisième rendez-vous sur CFM Rodes. Le thème, je vous regarde, je ne sais pas si vous connaissez déjà le thème de la prochaine émission.
Oui, on peut parler de le déroulé de la médiation. Donc, comment on met en place la médiation et quelles sont les étapes.
Eh ben, avec plaisir, c'est parfait, ça me va très bien. Merci beaucoup. Merci Lucia.
Merci David.
Merci Justine.
Merci David.
On se quitte en musique avec U2, With or Without You. Oui, là, il y aura peut-être un problème de médiation familiale, je ne sais pas. Allez, bonne journée sur CFM.
lost in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Storm, we reach the shore. You give it all.